J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bonjour tout le monde et bienvenue sur Aléa. Aujourd'hui, nous retournons explorer le jeu et ses frontières. Et je vais vous emmener vers un nouveau territoire qui se dérobe souvent aux joueurs, mais qui fait partie intégrante du jeu. Il s'agit de l'infrajeu. Mais pour comprendre un peu de quoi il en retourne, je vous propose d'abord de faire un rapide détour vers ce que nous allons appeler les échelles du jeu. Les échelles du jeu sont ce qui entoure le jeu. Ce sont nos différentes manières d'entrer en relation avec le jeu et de nous y impliquer. À chaque niveau de ces échelles de jeu correspond une certaine expérience de jeu, une certaine appréhension du jeu. C'est-à-dire, en fonction de là où on se place sur cette échelle, la façon dont on va jouer, ce que l'on va ressentir dans le jeu, mais aussi notre manière de raisonner et d'élaborer des stratégies qui vont changer. Pour vous donner un exemple, lorsqu'on joue aux échecs, nous n'allons pas réfléchir ni nous comporter de la même manière selon qu'on se concentre uniquement sur le jeu, ses règles et la meilleure manière de gagner, ou selon que l'on joue contre un enfant pour lui transmettre le plaisir de jouer aux échecs. Dans le premier cas, c'est uniquement le déplacement des pièces et la stratégie calculatoire qui va nous intéresser, tandis que dans le second, c'est d'adapter nos mouvements de manière à ce que l'enfant puisse comprendre les différents coups possibles et leurs intérêts. On joue cette fois-ci de manière pédagogique avec une personne. Donc pour faire simple, les échelles du jeu représentent nos différentes manières d'appréhender et de concevoir notre implication dans les jeux, lorsque nous sommes en train de jouer. Sur ces échelles du jeu, le niveau le plus neutre est le jeu lui-même, c'est-à-dire un ensemble de règles qui vous disent comment jouer. Au poker, par exemple, le niveau neutre définit l'ordre des cartes, les tours de jeu et les conditions de victoire. Vient ensuite, à une échelle supérieure ou abstraite, ce qu'on appelle le méta-jeu. Nous avions déjà consacré une émission à cette notion de méta-jeu. Mais pour vous en rappeler l'essentiel, il existe dans le jeu des situations où les joueurs ne se cantonnent pas qu'aux règles formelles du jeu et font intervenir des stratégies et des raisonnements qui font appel au contexte social derrière le jeu. Il se peut par exemple que dans le jeu de cartes, comme la coinche, la belote ou le bridge, les joueurs établissent ce qu'on appelle des conventions. Si un joueur annonce telle chose, c'est pour signifier qu'il a telle ou telle carte et par conséquent que son partenaire doit ajuster son propre comportement, sa propre stratégie, en fonction de cette information et de ses cartes. Le méta-jeu désigne donc l'extension du domaine du jeu en dehors du jeu lui-même, pour toutes les fois où le jeu sort de son royaume ludique pour s'immiscer dans le contexte social qu'il a fait naître, ou, à l'inverse, toutes les fois où ce contexte social s'immisce au sein du monde du jeu. Toutes les fois, par exemple, où je ne joue pas telle carte, alors que je sais qu'elle va me faire gagner, pour ne pas blesser mon adversaire que je sais être un joueur susceptible. Bref, nous avons donc les domaines du jeu et du méta-jeu. Mais qu'en est-il de l'infrajeu? L'infrajeu, ce sont les choses qui se passent à un niveau infra, c'est-à-dire un niveau que l'on ne perçoit pas, un niveau intérieur, celui des choses qui se jouent en nous, pendant le jeu, alors que nous n'en avons pas conscience. Derrière les niveaux du jeu et du méta-jeu, où interviennent des stratégies conscientes et rationnelles, se loge donc l'infrajeu, un niveau où s'opèrent des choses que l'on ressent pendant le jeu et qui influencent notre manière de jouer, mais sans que cela se fasse de manière consciente. Il s'agit, si vous voulez, de tout ce qui se passe au niveau inconscient du jeu, au niveau de la psychologie du joueur. L'exemple peut-être le plus marquant de ce niveau de l'infrajeu est le type de personnalité que l'on dévoile lorsqu'on est face à un jeu. Dans les parties que vous avez pu faire avec vos amis, vous avez certainement déjà dû remarquer des types de caractères spécifiques se révéler dans les jeux. Il y a ceux qui sont très agressifs, ceux qui sont trop impliqués dans le jeu et parfois mauvais perdants, il y a ceux qui sont très réflexifs et rationnels, ceux qui mettent un temps incroyablement long à jouer, ceux qui aiment se glisser dans la peau d'un personnage et raconter une histoire. Tous ces traits de personnalité qui se révèlent face au jeu sont situés à ce niveau souterrain et occulte qu'est l'infrajeu. Et ce qui est très intéressant avec ce niveau de jeu, c'est que l'on peut en apprendre sur les autres, mais surtout de soi-même, sur sa personnalité et ses penchants. Il y a par exemple des personnes qui disent se transformer lorsqu'ils sont dans des jeux. Ils deviennent par exemple plus compétitifs ou cherchent au contraire, à tout prix, à ce que tout le monde gagne ou gagne un peu. L'infrajeu est donc un niveau qui est intéressant à étudier pour se connaître soi-même. Mais il est aussi intéressant à étudier en soi, pour comprendre, par exemple, le lien qui va exister entre un type de jeu et un type de comportement requis pour gagner. Pour ne vous donner qu'un exemple, des études ont été menées sur les personnalités des joueurs de poker. Elles définissaient des types de personnalités cardinales avec des traits caractéristiques comme l'extraversion, l'amabilité, la probité, le névrosisme et l'ouverture d'esprit, et mesuraient le taux de ces différentes caractéristiques chez le joueur à succès. Et il se trouve, c'est ce que cette étude nous apprend, que les grands joueurs de poker ont une probité plus élevée que la moyenne, c'est-à-dire une capacité d'organisation et de persévérance, et un névrosisme moins élevé, c'est-à-dire une tendance à se dévaloriser et à toujours voir les mauvais côtés des choses. À vrai dire, on pouvait s'en douter. Mais cet exemple est intéressant parce qu'il nous permet, en le généralisant, de tirer deux enseignements. Premièrement, dans les jeux, il y a des choses qui se jouent en nous et dont nous n'avons pas conscience. Et ces choses vont avoir des conséquences sur la manière dont nous allons nous comporter dans les jeux. Deuxièmement, il y a donc certains jeux qui, en fonction de ce qu'ils demandent en termes d'infrajeux, vont plutôt favoriser tel ou tel type de personnalité de joueur. Pour le dire plus simplement, il y a des personnalités plus ou moins compatibles avec certains jeux. Et je terminerai en soulignant alors que ce que l'on voit avec l'infrajeu, c'est qu'un des grands mérites du jeu est de pouvoir apprendre à se connaître, à reconnaître comment on agit face au jeu et face aux autres, et éventuellement comment on peut progressivement apprendre à modifier ses comportements pour s'adapter au jeu, mais aussi à la société. C'est une autre sorte de méta-jeu. Apprendre à se connaître soi-même est un jeu contre soi-même, un jeu qui dure toute une vie.
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus.